musiciens, Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, ça va bien? Bonsoir à Dieu. Je voudrais remercier déjà tous ceux qui ont commencé à envoyer des dons pour le livre Enoch. Alors, je n'ai pas encore répondu par écrit à tout le monde, mais vraiment, je suis très touché de voir que voilà, les dons arrivent. Je pense que si ça continue comme ça, on va pouvoir... J'ai demandé des devis et je pense qu'on va pouvoir faire ça avant la fin de l'année. Ça serait bien, hein? Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'envoyer des dons. Continuez à envoyer les dons. Plus il y en aura, plus on pourra en imprimer. Et vous savez, si on en fait 1000, il n'y a pas une grande différence entre 1000 et 2000, hein, d'après les prix. Et puis si on en fait 2000, il n'y a pas beaucoup de différence entre 2000 et 5000. C'est vrai, les prix baissent tout de suite. Donc, plus vous enverrez, plus il y aura, plus on pourra, et plus le Seigneur sera glorifié, parce que c'est un livre qui doit sortir à la fin des temps. La Bible dit que Enoch, ce livre-là, a été écrit pour la dernière génération. C'est nous, et c'est un grand honneur que Dieu nous fait de pouvoir être participants à cette œuvre, de pouvoir diffuser ce livre qui est écrit, je vous le rappelle, il y a 5300 ans quand même. C'est certainement le plus vieux livre du monde. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais vous lire ce soir Jean 18, 39. C'est au sujet, vous vous rappelez, quand Jésus a été en procès, il a passé devant Pilate et à un moment donné, Pilate, au verset 39, il dit « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Amen, vous pouvez vous asseoir. Malheureusement, vous connaissez comment a réagi la foule. Ils ont dit non, on veut que tu relâches Barabbas. Donc, il a laissé partir Barabbas. Mais c'était une coutume de laisser, de gracier quelqu'un le jour de Pâques, là. Nous sommes en juillet et tous les mois, dans la communauté, nous choisissons un mot ou deux et on s'entretient au sujet de ce ou ces mots dans la communauté, entre frères et sœurs, et aussi dans les familles, il y a des réunions de famille, les parents parlent avec leurs enfants au sujet de ces mots, et ces deux mots, ce mois-ci, c'est justice et clémence. Alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention ce soir de vous faire un exposé complet au sujet de la justice et de la clémence, parce que c'est énorme. Vous avez des gens qui font des études pendant 5-6 ans pour pouvoir exercer la justice, donc ce n'est pas en une prédication de 20 minutes que je prétends faire le tour, mais je vais aborder cela d'une certaine manière pour nous aider à nous-mêmes manifester la justice de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Donc cette prédication pourra vous servir à vous pour débuter les conversations entre parents et enfants, donc dans vos soirées familiales, et pour débuter les conversations des frères et sœurs tout au long de ce qui nous reste du mois de juillet, puisqu'on est déjà quand même bien avancé. Alors tout d'abord, il faut savoir que le mot clémence, eh bien on ne le trouve pas dans la Bible. Il n'est pas le mot clémence. Il pourrait y être, parce que le mot clémence, c'est un terme qui décrit en fait la pitié, la compassion et la miséricorde. Et ce mot clémence est utilisé en général, quand on utilise ce mot, c'est pour dire voilà, que c'est quand il y a une sanction qui doit être exercée, qui doit être appliquée, mais avec clémence, c'est-à-dire qu'on va le faire d'une manière moins rigoureuse qu'on devrait le faire d'après le règlement. C'est ça, la clémence. C'est on adoucit, n'est-ce pas? On adoucit la peine. C'est pourquoi j'ai décidé de placer ces deux mots, justice et clémence, ensemble pour ce mois de juillet, parce que je trouve que c'est quelque chose de très beau. La justice exercée par un disciple de Jésus doit être une justice clémente. Par exemple, avec vos enfants, eh bien, vous devez exercer la justice. Il ne suffit pas simplement que votre gamin fasse une bêtise. « Pardon, papa, oui, d'accord, je te pardonne, puis c'est tout. » Non, 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 non. Il faut quand même, s'il y a une transgression, il faut quand même aussi, quand il y a des règles, il faut qu'il y ait aussi des punitions quand les règles sont brisées. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? S'il n'y a pas de punition, c'est de la rigolade, c'est plus des règles, c'est plus des lois. Mais il faut de la clémence, il faut de la clémence. Alors, nous avons tous entendu qu'en France, c'est une tradition aussi, hein, le 14 juillet, le président de la République, eh bien, il accorde ce qu'on appelle une réduction de peine. Le chef romain, là, Pilate aussi, il avait cette coutume en Israël, il relâche un prisonnier. Il lui accorde sa clémence, en fait, c'est quelqu'un qui est coupable, qui a fait une partie de sa peine, mais voilà, on l'atténue et on lui rend la liberté. Alors, on ne fait preuve de clémence qu'à ceux qu'on juge quand même coupables. Hein? et pour montrer qu'on est miséricordieux. En fait, ça revient au même, parce que la miséricorde, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Eh bien, si vous regardez dans le dictionnaire, la miséricorde, c'est la pitié qui nous pousse à pardonner à un coupable. Alors on dirait, oui, mais alors on ne doit pas juger. Si, si, on juge de tout. La Bible nous dit que l'homme spirituel, il juge de tout. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais l'homme spirituel, il juge de tout. Ou alors, il y a des hommes, des femmes qui sont des serviteurs de Dieu pour juger. On va y venir. Donc, quand il est écrit que Dieu est miséricordieux, ça ne signifie pas qu'il nous pardonne parce que nous avons un mérite. Il sait qu'on est coupable, il pardonne, il allège des fois la punition, mais c'est là donc qu'on peut comprendre qu'arrive le mot justice. Parce que quand il y a transgression, il peut y avoir clémence, mais d'abord il y a la justice qui est exercée. Et il y a une phrase toute simple, qui est claire, qui est nette. Tu m'écoutes, Sandrine, là? Oui. Qui aide à comprendre beaucoup de choses, si on y réfléchit, mais sinon on n'y comprend rien. Mais si on y réfléchit, voilà ce que c'est. C'est une phrase qui nous aide à comprendre. S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait même le mot justice. Alors ça a l'air d'être une vérité à la palisse, mais il faut savoir ça d'abord. Il y a des injustices. Même Jésus dit, c'est normal, il doit arriver des scandales, il doit y avoir des choses comme ça. Et la justice peut se manifester. Mais par qui doit-elle se manifester? Et d'après quelles règles? Parce qu'il doit y avoir un règlement qui matérialise par un texte l'échelle des sanctions, des punitions qu'on va appliquer. C'est ça la justice. Et là, dans nos pays christianisés, en fait, il y a deux justices. Il y a la justice privée et puis il y a la justice publique. J'explique. Si quelqu'un ment à mon sujet, par exemple, ou me vole, ou n'importe qui, fait quelque chose qui me fait du tort, la Bible m'enseigne que je dois aller parler avec lui, avec une attitude de chrétien, pour arranger la situation, pour l'arranger à l'amiable, voilà, pour essayer de que ça s'arrange, quoi. Hein, on doit le faire. Mais si le voleur ou le menteur refuse, n'est-ce pas, de réparer, s'il ne veut pas reconnaître, s'il persiste, alors j'ai le droit d'en parler à la justice publique. Parce que la justice publique, elle me donne des droits. Elle va prendre cette affaire en charge, elle va me défendre. À ce moment-là, c'est donc l'État qui va juger l'affaire et punir le coupable. Et c'est une bonne chose qu'il en soit ainsi pour beaucoup de raisons. Et d'abord, il faut essayer de le faire à l'amiable, même si on est inconverti. Hein, mais surtout si on est chrétien, d'abord, premièrement, le faire à l'amiable. Au-dessus de l'État, il y a Dieu, même s'ils ne le veulent pas. Il y a Dieu, et Dieu ne nous permet pas de faire justice personnellement. Et en fait, c'est Dieu qui a institué ce qu'on appelle la justice humaine, c'est justice que j'appelle la justice publique. Pourquoi Dieu ne permet pas qu'on fasse justice personnellement? Eh bien, parce que on a deux tendances en nous, à cause du fait que nous sommes déchus, qu'on a perdu, n'est-ce pas, cette image de Dieu que nous avions au départ à cause du péché, et on a deux tendances en nous qui sont très graves et très violentes. La première de ces tendances, c'est notre désir de vengeance. Et bien sûr, c'est normal d'avoir un désir de vengeance suivant ce qu'on vous fait, mais il faut, quand ça monte en nous, ce désir de vengeance, il faut aller à la croix, il faut déposer ça devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que, dans Hébreux 10, 30, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est pas à nous. Dieu ne veut pas qu'on se venge. Nous n'avons pas le droit de nous venger, et nous autres qui sommes chrétiens, nous le savons. Les inconvertis ne savent pas, mais Dieu, dans son amour, il a passé par-dessus tout cela, et il a créé ce système de la loi, de la justice, donc, civile. Dieu donne des règles de façon à ce qu'on puisse vivre plus ou moins bien dans le pays où nous vivons, même si ce pays où nous vivons ne croit pas en Dieu. Il est bon. Dieu est bon. Et je voudrais qu'on parle de la justice de Dieu, plutôt que de rentrer dans les détails, et il y en a énormément, de la justice humaine et de toutes ces choses. Je voudrais qu'on parle de celle qu'il a mis sur notre compte, parce que ça, c'est quand même très, très important, et ça fait toute la différence. Quand on dit on est une nouvelle créature, on est une nouvelle création, c'est de cela dont il est question. Je ne veux pas faire ici un exposé qui concerne ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire en cas de litige. Je voudrais parler de votre justice à vous. Dieu, la Bible nous dit, nous a justifiés. Alors, cela signifie qu'il nous a rendus justes. Bien sûr, si vous allez cambrioler une banque et que vous êtes arrêté par la police et que vous vous trouvez dans le tribunal, en tant que chrétien, déjà c'est pas bien d'aller cambrioler une banque si on est chrétien, mais en plus, si vous êtes chrétien et que vous allez devant le tribunal, vous dites « Oh, mais moi, Dieu m'a justifié, vous n'avez pas le droit de me juger, si vous jugez, vous péchez. » Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. La Bible nous dit que les tribunaux, c'est les juges, ces gens-là, ces magistrats, sont des serviteurs de Dieu. Dieu a placé l'épée dans leurs mains et on doit craindre cela. C'est quelque chose qui est institué par Dieu. Alors, ce n'est pas parce qu'on a été justifié que forcément on fait toujours des actions justes. Je suis juste aux yeux de Dieu. Dieu me regarde, il a choisi de me regarder comme ça. C'est aux yeux de Dieu que vous êtes juste parce qu'il vous a accordé la justification alors qu'elle ne vous était pas due. Et que vous ne la méritiez pas, que je ne la méritais pas. Il nous l'a accordé. C'est un cadeau, c'est une grâce. Quoi que vous ayez fait, si vous venez à Dieu repentant, demandant sa grâce et sa force pour pouvoir vivre une vie autrement, eh bien, il vous accorde cette grâce et vous donne la justification. Parce que non seulement il vous pardonne, mais il vous justifie. Ça signifie qu'il ne vous regarde pas comme quelqu'un qui a péché et d'en haut, il vous regarde en se disant, moi je suis quand même extraordinaire parce que voilà, je l'ai pardonné dans la grande bonté. Non, 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 il vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché. Il n'y a rien dans son cœur contre vous. Et là, vous qui êtes chrétien, c'est dans cette position que vous êtes. Et quand vous n'arrêtez pas de vous auto-flageller et de dire du mal de vous et de vous critiquer vous-même et d'être intransigeant avec vous, pour ne pas dire avec les autres, eh bien vous êtes en train de lutter contre Dieu. Parce que lui, Dieu, veut que vous vous regardiez comme lui, il vous regarde. Comme des gens purs, comme des gens justes. Amen. Si vous croyez en lui, vous devenez une nouvelle personne en lui. C'est-à-dire, vous devenez justice de Dieu. Vous ne devenez pas seulement quelqu'un de juste, vous devenez justice de Dieu. Vous devenez la justice de Dieu incarnée sur la terre. On va lire 2 Corinthiens 5, 20, 21. Écoutez ça. C'est très fort. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant que vous êtes chrétien, vous êtes la justice de Dieu. Autant lui, il était la justice de Dieu, autant maintenant c'est vous qui êtes la justice de Dieu. Sur la croix, Jésus est devenu l'incarnation du péché. Et si maintenant vous croyez en lui, si maintenant vous lui faites confiance, vous êtes l'incarnation de la justice de Dieu sur la terre. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de penser mal à votre sujet, de dire « Oh, mais j'ai encore fait ci, oh, mais j'ai encore fait ça, mais est-ce que je suis vraiment chrétien, mais comment est-ce possible ?» Et que ci, et que ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Vous devez, le pire des péchés, c'est de ne pas faire confiance à Dieu qui vous a justifié, qui vous a purifié, et qui vous aide maintenant à grandir dans cet état-là. Dieu vous a rendu juste en vous attribuant sa justice. Imaginons que vous avez un compte en banque, à l'intérieur duquel, sur ce compte, ben, il n'y a que des mauvaises choses. Hein. Vous avez un coffre dans un compte, et dans ce coffre, il n'y a que des saletés. Eh bien, Dieu enlève ce qu'il y a dans ce coffre, et il prend ce qu'il y a dans son coffre, c'est-à-dire sa pureté, sa beauté, sa gentillesse, sa justice, et il met tout ça dans votre compte. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est en cela que vous êtes une nouvelle créature. OK ? Il était juste et il s'est fait péché, il est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Il a pris vos péchés sur lui volontairement et il a placé sa justice sur vous volontairement. C'est lui qui l'a voulu, c'est par pure grâce, il nous l'a accordé à nous qui demandions rien du tout. Il l'a fait même avant que nous naissions. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas être sauvé en faisant le bien. Le seul bien que vous devez faire, c'est de faire confiance que ce que Dieu a fait, c'est bien. Et c'est ça qui est juste. C'est suffisant pour que, au jour du jugement, vous vous présentez devant Dieu, qui vous regardera avec ses yeux à lui et qui vous trouvera juste. C'est clair. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et les Juifs n'ont pas compris ça. Et ils continuent. Ils croient au même Dieu que nous. Mais ils continuent à essayer de se rendre juste par leurs propres moyens, en faisant toutes sortes de rites, en faisant toutes sortes de sacrifices, en faisant toutes sortes de choses. Et en faisant cela, ils ne se soumettent pas à la justice qui est offerte par Dieu. C'est exactement ce que signifie Romains 10, 3. Je l'ai paraphrasé, mais c'est exactement ce que ça signifie. Et ça, c'est la pire offense qu'ils peuvent faire à Dieu. Alors ne rentrez pas dans ce système-là. Ne rentrez pas dans ce système-là. N'essayez pas d'attirer les faveurs de Dieu en faisant le bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes des gens heureux, c'est-à-dire en marche, dont le roi David parlait. Le roi parlait des gens heureux. Il disait « Heureux l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il n'ait aucune œuvre méritoire à présenter. » Ça, c'est exactement nous. Vous vous rendez compte, David, longtemps avant Jésus-Christ, avait compris qu'en fait, ce qui glorifiait le plus Dieu, c'était qu'on lui fasse confiance pour le pardon et la justification. Alors Israël, tout ce peuple, ils ont fait de grands efforts et ils continuent encore pour obtenir la faveur de Dieu en accomplissant ce que la loi de Moïse ordonne, mais ils ont manqué le but. Par contre, nous, qui n'étions pas le peuple de Dieu, on ne se souciait pas de plaire à Dieu, on a été reçus par lui alors qu'on le cherchait, même pas, et on a trouvé comment être juste devant lui, à ses yeux. Et ce comment, ben c'est tout simple, c'est en lui faisant confiance. C'est magnifique. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est exactement, simplement je l'ai paraphrasé, ce que Paul dit dans Romains 9, 30, 31. Vous irez le lire, vous verrez. C'est exactement ce qui est dit là. Alors, ça nous montre comment Dieu agit dans sa famille avec les siens. Avec ceux qu'il a sauvés, avec ceux qu'il est venu sauver. Alors maintenant, comment on agit dans la famille de Dieu? Si Dieu le Père agit comme ça, ben, il faut que les enfants, on prenne modèle aussi, Dieu est notre modèle. Donc ton frère pêche, ta sœur pêche, tu n'as pas à condamner, tu n'as pas à t'offusquer, tu n'as pas à casser les ponts, non, tu en parles avec elle, tu en parles avec lui, tu en parles avec une attitude gracieuse, celle de Dieu, l'attitude gracieuse, c'est-à-dire non dans le but de condamner, ni même de mettre mal à l'aise la personne qui a péché, mais dans le but d'arriver à ce que cette personne prenne conscience qu'elle a fait quelque chose qui est mal et qu'elle se repente et puis qu'elle se détourne de la chose en se rendant compte qu'elle a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se repente? Ben c'est juste dans le but qu'elle grandisse. Jésus nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés, mais maintenant il nous arrive de faire des erreurs. Et justement, si on va reprendre notre frère ou notre sœur qui a fait une erreur, c'est dans le but de le faire grandir dans son état d'homme ou de femme juste. Et ça va l'aider à ne plus recommencer, à prendre conscience que c'est bon de se discipliner pour plaire à Dieu, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il nous a tellement aimés qu'il est venu nous sauver, malgré le fait que nous ne méritions pas d'être sauvés. Alors bien sûr, si la personne s'entête, si à ce moment-là il faut en parler, la Bible nous dit à deux ou trois autres personnes et puis on va, puis on en discute. Si elle s'entête encore, il faut en parler avec l'Église et puis finalement c'est l'Église qui, en tant qu'autorité déléguée par Dieu, peut prendre poser une sanction, mettre une punition s'il faut, même une exclusion s'il faut. Mais c'est toujours dans le but quand même ces entrevues de la grâce, du pardon. Mais si la personne n'en veut pas. Ça ne sert à rien de gracier une personne qui ne veut pas de la grâce que vous lui offrez. Dieu est comme ça et nous sommes aussi comme ça. Ça ne sert à rien de gracier. Si quelqu'un méprise la grâce que vous lui faites, c'est jamais une grâce qui dit « Oh, ce n'est pas grave, on s'en fout. » Non, 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 non. Tu as péché, il faut que tu changes, il faut que tu te repentes et tout, puis je te gracie. Ou alors, je te gracie, mais tu as été déjà... Par exemple, l'homme qui était en prison, il était déjà en prison. Et il était gracié, mais il avait déjà été jugé, il avait déjà été condamné. Vous voyez la chose? C'est toujours à une personne, elle reçoit, elle bénéficie de la clémence une fois qu'elle a vu, qu'elle a compris, ou même qu'elle a déjà senti un petit peu le feu, n'est-ce pas, du châtiment qu'elle mérite. Ok? Dieu est notre modèle en tout, donc nous devons aussi suivre son commandement. Maintenant, je voudrais vous lire une histoire. C'est une belle histoire qui illustre beaucoup de choses sur le sujet de la justice et de la clémence, de la foi, de l'endurcissement aussi, de la façon de juger, de la façon dont Dieu agit en partenariat avec ceux qui jugent, mais d'une façon juste, c'est-à-dire à la façon de Dieu. Et c'est une lecture qui est un peu longue, alors je vous demanderai d'être attentif, mais je suis certain, si vous y réfléchissez, ça va vous apprendre, et moi ça m'a appris, à vous ranger du côté de Dieu en toute chose. Si vous êtes la personne offensée ou si vous êtes la personne qui a offensé, si vous êtes la personne dans l'égarement ou si vous êtes la personne qui va chercher quelqu'un qui est dans l'égarement. C'est un texte qui va vous donner des idées. Ça va vous montrer qu'il est bon de se tourner du côté de Dieu, d'user de patience, de ne pas se précipiter dans les jugements, de prendre le temps. Parce que c'est vrai, comme dit 1 Corinthiens 2,15, que l'homme spirituel juge de tout. Mais l'homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un d'excité qui pose des jugements en 2 secondes, en 2 minutes. Cette histoire, elle se passe 80 ans avant la naissance de Jésus. Elle n'est pas dans la Bible. Et je vais vous lire là un extrait d'un livre qui s'appelle le livre d'Alma, qui est un prophète juif qui vivait là-bas, en Amérique. Mais ça, c'est toute une autre histoire, on en parlera peut-être une autre fois. Mais je vous lis ça dans un livre, dans le livre de ce prophète qui s'appelle Alma, et ça se trouve au chapitre 30, verset 6 à, tenez-vous bien, 56. Alors, je vous fais la lecture, et puis après, vous aurez l'occasion d'en parler aussi entre vous, avec vos enfants, et dans la communauté, et puis vous qui écoutez sur Internet, d'y réfléchir et de faire écouter ça à d'autres aussi, peut-être, et puis de réfléchir à toutes ces choses. Voyez l'histoire comme quelque chose qui peut vous apprendre quelque chose. Je vous lis donc, ça se passe 80 ans avant la naissance de Jésus-Christ, chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens. Le pays était en paix, mais il arriva qu'à la fin de la 17e année, il vint un homme au pays de Zarem-la. Il était l'Antichrist, car il commença à prêcher au peuple contre les prophéties qui avaient été dites par les prophètes concernant la venue du Christ. Or, il n'y avait pas de loi contre la croyance d'un homme, car il était strictement contraire au commandement de Dieu qu'il y eût une loi qui mit les hommes sur un pied d'inégalité. Car, ainsi dit l'Écriture, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Or, si un homme désirait servir Dieu, c'était son droit. Ou plutôt, s'il croyait en Dieu, il avait le droit de le servir, mais s'il ne croyait pas en Dieu, il n'y avait pas de loi pour le punir. Mais s'il commettait le meurtre, il était puni de mort, et s'il commettait des actes de brigandage, il était également puni. S'il volait, il était également puni. S'il commettait l'adultère, il était également puni. Oui, toute cette méchanceté, pour toutes ces méchancetés, ils étaient punis. Car il y avait une loi stipulant que les hommes devaient être jugés selon leurs crimes. Néanmoins, il n'y avait pas de loi contre la croyance d'un homme. Un homme n'était donc puni que pour les crimes qu'il avait commis. C'est pourquoi tous les hommes étaient sur un pied d'égalité. Et cet Antichrist, dont le nom était Cori-Or, et la loi n'avait donc aucune prise sur lui, commença à prêcher au peuple qu'il n'y aurait pas de Christ. Et il prêchait de cette manière, disant: « Oh, vous qui êtes entravés par une espérance insensée et vaine, pourquoi vous mettez-vous sous le joug de choses aussi insensées? Pourquoi attendez-vous un Christ? Car nul ne peut rien savoir de ce qui est à venir. Voici ces choses que vous appelez prophéties, que vous dites transmises par de saints prophètes. Voici, ce sont des traditions insensées de vos pères. Comment savez-vous qu'elles sont sûres? Voici, vous ne pouvez pas connaître ces choses que vous ne voyez pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas savoir qu'il y aura un Christ. Vous regardez vers l'avenir et dites que vous voyez une rémission de vos péchés. Mais voici, c'est l'effet d'un esprit en délire. Et ce dérangement de votre esprit vient des traditions de vos pères qui vous entraînent à croire des choses qui ne sont pas. » Et il leur dit beaucoup d'autres choses de ce genre, leur disant qu'ils ne pouvaient pas, en fait, qu'il ne pouvait être fait d'expiation pour les péchés des hommes, mais que ce qu'il advenait de tout homme dans cette vie dépendait de la façon dont il se gouvernait. C'est pourquoi tout homme prospérait selon son génie, et tout homme conquérait selon sa force, et tout ce qu'un homme faisait n'était pas un crime. Et c'est ainsi qu'il leur prêchait, égarant le cœur de beaucoup, leur faisant redresser la tête dans leur méchanceté, oui, entraînant beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes à commettre la fornication, leur disant que lorsqu'un homme était mort, c'en était fini. Or, cet homme passa aussi dans le pays de Gerson pour prêcher ces choses parmi le peuple d'Ammon, qui fut jadis le peuple des Lamanites. Mais voici, ils furent plus sages que beaucoup des Néphites, car ils le prirent et le lièrent et l'amenèrent devant Ammon, qui était grand prêtre de ce peuple. Il arriva qu'il le fit emmener hors du pays. Donc le grand prêtre l'emmène hors du pays et il le passe dans le pays de Gédéon. Et là, il recommence à leur prêcher et il n'eut pas beaucoup de succès car il fut pris est lié et amené devant le grand prêtre et aussi le grand juge du pays. Il arriva que le grand prêtre lui dit, mais pourquoi vas-tu partout pervertir la voix du Seigneur? Pourquoi enseignes-tu à ce peuple qu'il n'y aura pas de Christ? Pour interrompre sa joie? Pourquoi parles-tu contre toutes les prophéties des saints prophètes? Or, le nom du grand prêtre était Gidona. Et Corior lui dit, parce que je n'enseigne pas les traditions insensées de vos pères et parce que je n'enseigne pas à ce peuple de se laisser entraver par les ordonnances et les observances insensées qui sont prescrites par des prêtres d'autrefois pour usurper le pouvoir et l'autorité sur eux, pour les garder dans l'ignorance afin qu'ils ne relèvent pas la tête mais soient abaissés selon tes paroles. Vous dites que ce peuple est un peuple libre. Voici, je dis qu'il est dans la servitude. Vous dites que ces prophéties d'autrefois sont vraies. Voici, je dis que vous ne savez pas qu'elles sont vraies. Vous dites que ce peuple est un peuple coupable et déchu à cause de la transgression d'un de ses parents, Adam. Voici, je vous dis qu'un enfant n'est pas coupable à cause de ses parents. Et vous dites aussi que le Christ viendra. Mais voici, je dis que vous ne savez pas qu'il y aura un Christ. Et vous dites aussi qu'il sera tué pour le péché du monde. Et ainsi, vous entraînez ce peuple dans les traditions insensées de vos pères et selon vos propres désirs. Et vous le gardez abaissé comme si c'était en servitude afin de vous gorger les travaux de leurs mains, afin qu'ils n'osent pas lever les yeux avec hardiesse et afin qu'ils n'osent pas jouir de leurs droits et de leur liberté. Oui, ils n'osent pas faire usage de ce qui est à eux, de peur d'offenser leurs prêtres, qui leur imposent leur joug selon leurs désirs et les ont amenés à croire par leurs traditions et leurs rêves et leurs caprices et leurs visions et leurs prétendus mystères, que s'ils n'agissent pas selon leurs paroles, ils offenseraient quelque être inconnu qu'ils, disent-ils, est Dieu. Un être qui n'a jamais été ou connu et qui n'a jamais été vu ou connu et qui ne sera jamais. Alors quand le grand prêtre et le juge virent l'endurcissement de son cœur, oui, lorsqu'ils virent qu'il était capable d'injurier même Dieu, ils ne voulurent faire aucune réponse à ses paroles, mais ils le firent lier et le remirent entre les mains des officiers et l'envoyèrent au pays de Saraemla, afin qu'il fût amené devant Alma et le grand juge qui était gouverneur de tout le pays. Il arriva que lorsqu'il fut amené devant Alma et le grand juge, il continua de la même manière que dans le pays de Gédéon. Oui, il continua à blasphémer. Et il s'éleva en discours enflé de vanité devant Alma et injuria les prêtres et les instructeurs, les accusant d'entraîner le peuple dans de sottes traditions de leur père en vue de se gorger des travaux du peuple. Alors, pourquoi dis-tu que nous prêchons à ce peuple pour obtenir du gain? Et Corior lui répondit, attendez, non, j'ai sauté là un truc. Alors Alma lui dit, crois-tu qu'il y aura un Dieu? Et il répondit, non. Alors Alma lui dit, nieras-tu encore qu'il y a un Dieu? Et nieras-tu aussi le Christ? Car voici, je te le dis, je sais qu'il y a un Dieu et aussi que le Christ viendra. Et maintenant, quelle preuve as-tu de ce qu'il n'y a pas de Dieu ou de ce que le Christ ne vient pas? Je te dis, tu n'en as aucune, si ce n'est ta seule parole. Mais voici, j'ai tout pour témoigner que ces choses sont vraies. Et toi aussi, tu as tout pour témoigner qu'elles sont vraies. Et le nieras-tu? Crois-tu que ces choses sont vraies? Voici, je sais que tu crois, mais tu es possédé d'un esprit menteur et tu as écarté l'esprit de Dieu afin qu'il n'ait pas de place en toi. Mais le diable a pouvoir sur toi et il t'emmène ça et là, inventant des ruses pour détruire les enfants de Dieu. Alors Corior dit à Alma, « Si tu me montres un signe, afin que je sois convaincu qu'il y a un Dieu, oui, montre-moi qu'il y a du pouvoir. » Alors je serai convaincu de la véracité de tes paroles. Mais Alma lui dit, tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères et aussi de tous les saints prophètes? Les Écritures sont placées devant toi. Oui, et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur la surface de la terre. Oui, et son mouvement. Oui, et toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Et pourtant, tu vas ça et là égarant le peuple, le cœur de ce peuple, lui témoignant qu'il n'y a pas de Dieu. Et pourtant, nieras-tu face à tous ces témoins? Et il dit, oui, je nierai à moins que tu ne me montres un signe. Alors il arriva qu'Alma lui dit, voici, je suis peiné de l'endurcissement de ton cœur, oui, de ce que tu persistes à résister à l'esprit de vérité, afin que ton âme soit détruite. Mais voici, il vaut mieux que ton âme soit perdue que de te laisser le moyen d'amener beaucoup d'âmes à la destruction par tes mensonges et tes paroles flatteuses. C'est pourquoi si tu nies encore, voici Dieu te frappera de sorte que tu deviendras muet de sorte que tu n'ouvriras plus jamais la bouche, de sorte que tu ne tromperas plus ce peuple. » Alors Corihor lui dit, « Je ne nie pas l'existence d'un Dieu, mais je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. » Et je dis aussi que tu ne sais pas qu'il y a un Dieu. Et si tu ne me montres pas un signe, je ne croirai pas. Alors Alma lui dit, je vais te donner ceci pour signe. Tu seras frappé de mutisme selon mes paroles. Et je dis qu'au nom de Dieu, tu seras frappé de mutisme de sorte que tu ne pourras plus t'exprimer. Alors quand Alma eut dit ces paroles, Corihor fut frappé de mutisme de sorte qu'il ne put plus s'exprimer conformément aux paroles d'Alma. Et alors, quand le grand juge vit cela, il avança la main et écrivit à Corihor, disant, « Es-tu convaincu du pouvoir de Dieu ? En qui désirais-tu qu'Alma montre son signe ? Voulais-tu qu'il en afflige d'autres pour te montrer un signe ? Voici, il t'a montré un signe, et maintenant, contesteras-tu encore ?» Et Corihor avança la main et écrivit, disant, « Je sais que je suis muet, car je ne peux pas parler, et je sais qu'il n'y avait pas de pouvoir et je sais qu'il n'y avait que le pouvoir de Dieu qui pouvait faire tomber cela sur moi. Oui, je l'ai toujours su qu'il y a un Dieu. Mais voici, le diable m'a trompé, car il m'est apparu sous la forme d'un ange et m'a dit, « Va et ramène ce peuple, car ils se sont tous égarés derrière un Dieu inconnu. » Et il m'a dit, « Il n'y a pas de Dieu. » Oui, il m'a enseigné ce que je devais dire, et j'ai enseigné ses paroles, et je les ai enseignées parce qu'elles étaient agréables à l'esprit charnel. Et je les ai enseignées jusqu'à avoir beaucoup de succès, de sorte que j'ai vraiment cru qu'elles étaient vraies. Et c'est pour cela que j'ai résisté à la vérité jusqu'à faire tomber cette grande malédiction sur moi. Alors qu'il lui dit cela, il supplia Alma de prier afin que la malédiction lui fût enlevée. Mais Alma lui dit, « Si cette malédiction t'était enlevée, tu égarerais de nouveau le cœur de ce peuple. C'est pourquoi il te sera fait comme le Seigneur veut. » Et il arriva que la malédiction ne fut pas enlevée à Corihor, mais il fut chassé et alla de maison en maison, mendiant sa nourriture. Alors la connaissance de ce qui était arrivé à Corihor fut immédiatement publiée partout dans le pays. Oui, la proclamation fut envoyée par le grand juge à tout le peuple du pays, annonçant à ceux qui avaient cru aux paroles de Corihor qu'ils devaient se repentir rapidement de peur que les mêmes jugements ne s'abattent sur eux. Il arriva qu'ils furent tous convaincus de la méchanceté de Corihor, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous lire jusqu'à la fin, c'est très long, mais vous avez compris. Justice et clémence. La ligne à ne pas franchir. Tout est là dans ce texte. Il faut l'analyser, il faut en parler, il faut le lire, il faut l'analyser. La justice de Dieu, elle doit se manifester. Elle doit se manifester. Si quelqu'un transgresse, il doit y avoir punition. Si nous ne sommes pas punis, si nous ne sommes pas condamnés, malgré toutes nos fautes, c'est parce que la justice de Dieu, elle est tombée sur Jésus. À la place de tomber sur nous. Mais là, elle s'est manifestée. Elle est tombée sur Jésus. Mais si vous ne croyez pas, si vous ne faites pas confiance à ce que Dieu a voulu, à ce que Jésus a fait en se chargeant de vos péchés, sa justice s'abattra sur vous. C'est obligé, tôt ou tard, ici ou après. Alors il vous parle, Dieu vous parle par ses serviteurs, Dieu vous parle de nombreuses fois. Vous avez vu là combien de fois, de juge en juge, d'endroit en endroit, ils ont essayé tout, comme à Corihor, n'est-ce pas, de nombreuses fois. Mais il y arrive un moment où, ici-bas, ou dans notre monde, la justice de Dieu s'abat et c'est terminé. Si vous ne vous repentez pas et si vous ne changez pas de comportement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une justice. Dieu est amour, c'est vrai, mais il est juste aussi. Si vous n'acceptez pas la justice de Dieu qui est qu'à la place de vous punir vous, il a puni Jésus, si vous n'acceptez pas ça, si vous ne croyez pas ça, la justice de Dieu va tomber sur vous. C'est pourquoi nous avons ici dans la chapelle une épée à double tranchant, comme la Bible dit. Parce que ce que Dieu fait, c'est toujours à double tranchant. Soit cette épée se tourne contre vous pour couper le mal qui est en vous, si vous n'acceptez pas, elle se retourne contre vous pour vous tuer. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ce que la Bible nous dit. Alors souvenez-vous aussi de la façon qu'a eu Alma. Il a agi comment ? Il a agi de la part de Dieu, en tout. En tout, il a agi de la part de Dieu. Pas seulement au moment où il l'a rendu muet, mais en tout. Il a donné sa chance à Corihor. Il lui a donné sa chance. Plusieurs fois, il lui demande, Il raisonne, il lui parle du ciel, la terre, les étoiles et tout ça. Il lui parle, il lui montre. Il dit, puis tous tes frères, c'est quand même pas des idiots. Puis, et ceci et cela, mais comment tu peux pas. Mais est-ce que tu vas continuer à nier? Il lui donne sa chance plusieurs fois. Et finalement, il manifeste la justice de Dieu de la part de Dieu. C'est ça aussi être la justice de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes la justice incarnée de Dieu. C'est ça aussi être la justice de Dieu. On n'est pas que des brebis bêlantes comme ça, bêtes, et puis qui se laissent sans arrêt frapper. Je voyais qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'agressions depuis le début de l'année contre des lieux de culte ici en France et contre des cimetières au sujet des choses chrétiennes. Je ne parle même pas de ce qu'on fait aux juifs, là, je parle des chrétiens. Des églises incendiées, des choses profanées, des cimetières. On s'attaque à des chrétiens. Et pour le moment, personne ne fait rien. Les médias font rien, les chrétiens ne bougent pas, ils sont là avec leur chapelet ou simplement en train de prier Dieu, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ben c'est bien, il faut, bien sûr, il y a un moment comme ça. Après, il y a un moment où il faut avertir le pécheur. Et puis après, il y a un moment où il faut exercer la justice de Dieu. Si ce n'est pas vous qui faites, c'est qui? Si ce n'est pas les chrétiens qui font, c'est qui? Bien sûr, il faut se tourner. Les médias devraient en parler, ils n'en parlent pas. Il faut les forcer à parler, c'est un moyen déjà. Avant qu'on exerce le jugement de Dieu, nous-mêmes. Il faut que déjà les médias en parlent, ensuite que les tribunaux se saisissent de ces affaires. Mais ils font rien, rien du tout. Mais vous, allez sur Internet, j'ai trouvé ça sur Top Chrétien, je ne l'invente pas. Ce n'est pas une lubie à moi. J'ai trouvé sur Top Chrétien ce matin. Personne ne fait rien, parce qu'on est des chrétiens, on ne bouge pas. On dit rien, faut aimer, faut pardonner. Il y a des commentaires, mais du sirupeux, d'une gentillesse, d'une douceur, mais que ça en est presque même révoltant tellement c'est exagérément doux et gentil à l'égard de tous ces gens qui viennent nous insulter. C'est infernal. Il faut arrêter. Il faut que la justice, au moins des hommes, se manifeste. Et si elle se manifeste pas, eh bien, il faut que Dieu intervienne. Amen. Oui, moi je crois ça. Il doit y avoir une justice. Il y a transgression, il doit y avoir une justice. Mais il faut le faire à la façon comme nous l'avons vu, avec patience, c'est vrai, avec bonté, avec miséricorde, avec toujours cette possibilité de gracier les gens, de leur faire comprendre que c'est mal, les éduquer, leur dire, faire quelque chose pour qu'ils comprennent que c'est pas bien. Les sanctions ici-bas, elles ont leur raison. Et la sanction finale au grand trône blanc, elle aura aussi sa raison. Ici-bas, on sait pourquoi il doit y avoir. Moi, j'ai connu une femme qui a été violée, une chrétienne, et qui ne voulait pas porter plainte. J'ai dit, il faut porter plainte. Moi, on est chrétien, il ne faut pas. J'ai dit, si, parce que cet homme, si tu ne le fais pas arrêter, il va continuer à violer d'autres. C'est ça que tu veux? Ah non, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Les sanctions, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et la sanction finale, à la fin, au jour du jugement, quand Dieu va jeter en enfer tous ces gens qui s'endurcissent et qui ne veulent absolument pas de Dieu et qui s'en moquent et qui sont méchants, il y a une raison. Quelle raison? Dieu ne veut pas qu'il y en ait qui viennent pourrir l'ambiance au paradis. Voilà la raison. Ils nous foutent assez. Ils cassent tout ici. Et vous voudriez en plus, par amour, qu'ils rentrent au paradis tels qu'ils sont? Non. Il y a l'homme est là sur la terre, la femme est là sur la terre, après quoi vient le jugement? C'est maintenant le temps de la grâce, c'est maintenant qu'il faut se repentir. Pour le moment, il y a encore la clémence, pour le moment, il y a encore la patience, pour le moment, il y a encore la miséricorde, pour le moment, il y a encore de la pitié pour le pécheur, de la part de Dieu et de notre part, hein, de notre part aussi, puisque nous agissons comme notre Dieu, et encore, c'est encore le temps de la clémence, de la bonté, de la patience, mais quand même, il y a une ligne de trop, c'est trop. Et elle s'approche, cette ligne. On approche de cette ligne. Nous agissons donc comme Dieu, notre Père, nous dit d'agir, avec justice, avec clémence, et aussi comme Pierre, avec des Ananias et Saphira, n'oubliez pas. Ah, on prêche le plein évangile. Où sont vos Ananias et Saphira? Ou comme Paul avec Elimas, dans Actes 13, 8, 12, où sont vos Elimas? Paul était terrible, n'est-ce pas? Il l'a rendu aveugle par la puissance de Dieu qui était en lui. Oh, c'est des légendes d'il y a 2000 ans. Ta! C'est simplement parce que beaucoup de chrétiens ont simplement la trouille. Ils n'osent pas bouger, ils ne bougent pas. Il y a une chanson de France Gall qui dit ça. Ils sont à genoux, mais l'autre, il joue du piano debout. Il faut oser se mettre debout et dire non. Dieu a institué une justice ici-bas. Il faut avoir recours à cette justice ici-bas. Et puis, si vraiment ce n'est pas possible, eh bien, notre Dieu, c'est à lui qu'appartient la vengeance. David Wilkerson disait dernièrement, juste avant de mourir, quelques jours avant de mourir, le retour de Jésus, ce n'est pas une plaisanterie. On doit avertir le pécheur. Il avait raison. Le retour de Jésus, ce n'est pas une plaisanterie. Parce qu'à son retour, le retour de Jésus, ça signifie fini la clémence. La Bible nous dit qu'il est un agneau sur le trône, mais le jour où il se lève pour revenir, il se transforme en lion. Et là, ça va être une autre chanson. Ça va être une autre chanson. Et c'est pour bientôt. Alors, ce n'est pas que je respire la vengeance et que je désire. Non, ce que je veux, c'est comme Dieu, la même chose. La Bible dit, Dieu il dit, voilà, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se repente. Et bien, c'est la même chose. Pour un chrétien qui est rempli de l'Esprit, c'est la même chose. Mais il faut, pour qu'il se repente, il faut aller lui dire. Il faut lui parler, il faut s'exprimer. Et je souhaite que quelqu'un, d'une de ces personnes qui a fichu le feu quelque part, entende au moins cette prédication pour qu'il sache, mais c'est contre Dieu que tu luttes. C'est mal, c'est pas bien. Tu luttes contre des choses sacrées. Il faut pas le faire. Repends-toi. Et puis vous qui êtes ici, vous qui écoutez aussi sur Internet, il faut arrêter maintenant, il faut vous tourner vers Dieu réellement, dans une réelle conversion. Et si vous êtes déjà converti, il faut arrêter de vous auto-flageller sans arrêt, en vous rabaissant tout le temps. Vous êtes des fils et des filles de Dieu et vous avez à agir à la façon des fils et des filles de Dieu, comme votre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à être sage en toutes choses et toujours maintenant rempli de compassion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus, aide mes frères et sœurs à comprendre tout ça et permet qu'ils comprennent aussi que j'ai lu dans un autre livre que la Bible. J'aurais pu lire aussi dans Victor Hugo si j'avais trouvé une bonne histoire ou n'importe quoi, parce que je me sens libre dans un pays libre et je n'ai pas de règles religieuses qui m'imposent de lire que la Bible, même ici sur la chair. Je sais, Seigneur Jésus, que les gens qui viennent écouter comprennent ces choses et ne sont pas sectaires. Merci, Seigneur Jésus, pour ta paix en nos cœurs et permet que nous puissions aller de l'avant en relevant la tête et en étant fiers de porter ton nom, Jésus. Amen.